Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la Sainte Sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à cent grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce dimanche 21 avril 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'opération Vraie Promesse a inversé l'effet des sanctions contre l'Iran. C'est le titre de notre commentaire que nous allons tout de suite développer après le journal. Restez avec nous. Au sommaire de ce journal, le leader de la révolution islamique d'Iran, l'honorable Ayatollah Khamenei, a rencontré les commandants des forces armées. Le Hamas appelle les Palestiniens à faire la grève en réaction au drame en cours en Cisjordanie occupée. Et puis manifestation pro-palestinienne à travers l'Europe en guise de solidarité avec les Palestiniens. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le commandant en chef des forces armées iraniennes, l'Ayatollah Seyed Ali Khamenei, a rencontré ce dimanche 21 avril un certain nombre de commandants des forces armées de la République islamique d'Iran. En saluant les forces armées du pays pour leur récente victoire face à l'ennemi israélien, le leader de la révolution islamique s'est adressé aux commandants présents à la réunion en ces termes. Par la grâce de Dieu, les forces armées ont montré une bonne image de leur capacité et de leur autorité, ainsi qu'une image louable de la nation iranienne. Et ils ont prouvé l'émergence de la volonté de la nation iranienne sur la scène internationale. Des Iraniens de tous horizons sont descendus dans la rue pour exprimer leur soutien à l'opération Vraie Promesse du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, CGRI. Les manifestants ont profité de l'occasion pour dénoncer la guerre génocidaire d'Israël à Gaza et ses crimes contre les Palestiniens, scandant des slogans anti-israéliens et portant des pancartes avec des messages de remerciement adressés au CGRI pour avoir mené l'opération Vraie Promesse. Des milliers d'Iraniens ont défilé dans les rues des grandes villes du pays après les prières du vendredi pour exprimer leur soutien aux forces armées et à la récente opération militaire punitive menée contre Israël. L'actualité palestinienne dans la bande de Gaza, 16 Palestiniens dont une femme enceinte tuée dans des frappes israéliennes sur Rafah. Au moins 16 Palestiniens dont une femme enceinte ont été tués dans des raids menés par des avions militaires et de l'artillerie israéliens qui ont visé de nombreuses maisons de la ville de Rafah située au sud de Gaza. Ce dimanche matin 21 avril, l'armée israélienne a mené de nouvelles frappes aériennes contre Rafah, tuant au moins 16 personnes, dont une mère enceinte dans la ville densément peuplée du sud de Gaza. Les médias palestiniens ont rapporté qu'un père, une fille et une femme enceinte avaient perdu la vie après qu'un raid israélien a visé leur maison familiale dans le camp d'Al-Saboura, au centre de Rafah. La femme enceinte est décédée avant d'arriver à l'hôpital Kovéissien, mais les médecins ont pu sauver son bébé à naître. Une autre attaque aérienne israélienne a visé une maison de la rue Georges à l'est de Rafah, tuant 5 Palestiniens, dont 4 enfants, faisant aussi quelques blessés. Une autre frappe menée par l'armée israélienne a tué 8 personnes, dont 5 enfants, dans la ville palestinienne. Rafah, située à la frontière sud fermée de la bande de Gaza avec l'Égypte, abrite environ 1,5 million de Palestiniens qui ont été déplacés en raison de la guerre génocidaire menée par Israël sur l'enclave palestinienne assiégée. Israël avait désigné Rafah comme zone de sécurité, mais il menace désormais la ville d'une offensive militaire totale, rendant les personnes qui s'y sont abritées terrifiées avec nulle part pour aller. L'assaut a accru les craintes d'un nouveau carnage contre les Palestiniens et a suscité des condamnations mondiales. 14 morts dans un raid israélien sur un camp de réfugiés de la Cisjordanie occupée, le Hamas appelle à la grève. Le mouvement de la résistance islamique de la Palestine, Hamas, a appelé à une grève générale dans toute la Cisjordanie occupée. Il y a eu une journée de deuil pour condamner le raid militaire israélien sur le camp de réfugiés de Nour Shams, qui a fait 14 morts côté palestinien. Le Hamas, dont le siège se trouve à Gaza, a appelé toutes les couches de la société de Cisjordanie à descendre dans la rue et à s'engager dans des affrontements avec les forces criminelles du régime sioniste en représailles à l'assaut meurtrier perpétré dans la ville de Tul Karem, qui se situe dans le nord-ouest de la Cisjordanie. Les forces israéliennes ont lancé un raid prolongé vendredi dans le camp de réfugiés de Nour Shams, près de la ville palestinienne de Tul Karem, un coin sensible, et ils ont continué à échanger des tirs avec des combattants locaux jusqu'au samedi. Des véhicules militaires israéliens se sont massés et des rafales de tirs ont été entendues, tandis qu'au moins 3 drones survolaient la zone. Les brigades de Tul Karem, qui regroupent des combattants dans de nombreux groupes palestiniens, ont confirmé samedi avoir échangé des tirs avec les forces israéliennes. Enfin, manifestations pro-palestiniennes à travers l'Europe. Des manifestations de masse se sont déroulées ce week-end dans plusieurs pays européens en condamnation de la guerre génocidaire menée par le régime israélien contre la bande de Gaza. Des manifestations de masse ont eu lieu à Berlin, la capitale allemande, à Dublin, la capitale de l'Irlande, et à Genève, en Suisse, là où les manifestants ont appelé un cessez-le-feu immédiat et permanent dénonçant les actes génocidaires commis par Israël dans la bande de Gaza. Les manifestants ont porté des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Cessez de soutenir Israël avec mes taxes et nous, les Juifs, exigeons la fin du génocide ». Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'opération Vraie Promesse a inversé l'effet des sanctions contre l'Iran. Le principal message des manœuvres de drones et de missiles iraniens dans le cadre de l'opération Vraie Promesse était l'effet inverse de plusieurs décennies de sanctions contre l'Iran. Sur cette base, la décision des États-Unis, de l'Europe et de leurs alliés de réimposer des sanctions à l'Iran n'est qu'un jeu avec la carte brûlée. Joe Biden, le président des États-Unis, a annoncé l'imposition de nouvelles sanctions contre l'Iran. Selon Reuters, le président des États-Unis, en décrivant les nouvelles sanctions contre l'Iran, a ajouté que ces sanctions visaient les commandants et les institutions liées au corps des gardiens de la révolution islamique. Les États-Unis se coordonnent avec les pays membres du G7 concernant les nouvelles sanctions contre l'Iran, et nos alliés imposeront des sanctions et des mesures supplémentaires contre le programme militaire déstabilisateur de l'Iran, a déclaré Biden. Le département américain du Trésor a également annoncé qu'il avait placé 16 personnes et 2 entités iraniennes sur la liste des sanctions en réponse à l'attaque iranienne contre Israël. Les sanctions contre l'Iran interviennent alors qu'il y a plusieurs points qui méritent réflexion. Conformément à la résolution 2231 du Conseil de sécurité, depuis le 18 octobre 2023, toutes les sanctions relatives aux missiles et aux drones contre la République islamique d'Iran ont été annulées et l'Iran a le droit légal d'acheter, de vendre et d'utiliser tout missile et drone qui ne transporte pas une ogive nucléaire. Sur cette base, les nouvelles sanctions vont à l'encontre de la résolution du Conseil de sécurité et ignorent les lois des Nations Unies. Les États-Unis et l'Europe prétendent appliquer ces sanctions sous prétexte de l'opération Vraie Promesse qui, contrairement à la résolution du Conseil de sécurité, ont maintenu leurs sanctions unilatérales et illégales contre les capacités de drones et de missiles de l'Iran. Et l'utilisation du suffixe « nouveau » sur les sanctions contre l'Iran n'a qu'un aspect psychologique et de propagande. Concernant les sanctions pétrolières et économiques, le monde reconnaît que l'Iran est soumis aux sanctions les plus sévères et qu'il n'existe pratiquement aucune autre sanction efficace qui n'ait été appliquée contre l'Iran. Ces sanctions sont donc essentiellement un jeu de mots et un acte cérémoniel. Le journal Washington Post a souligné que l'Iran est déjà l'un des pays les plus sanctionnés au monde, considérant l'extension des sanctions aux acheteurs de pétrole iranien en Chine comme l'une des options limitées du gouvernement américain pour une double sanction contre l'Iran. Pendant ce temps, le secrétaire américain au Trésor et d'autres responsables de l'administration Biden ont tenté d'améliorer les relations entre Washington et Pékin avec de nombreux voyages en Chine ces derniers mois. Et maintenant, les sanctions sur les relations pétrolières entre l'Iran et la Chine ont provoqué la colère de Pékin et la Maison-Blanche tire toutes les ficelles pour rétablir les relations avec la Chine. En revanche, l'embargo sur la vente du pétrole iranien à la Chine pourrait faire augmenter le prix mondial du pétrole, ce qui ne plaît pas à la Maison-Blanche à la veille de l'élection présidentielle américaine de 2024. Les Américains et certains pays européens, après la récente attaque du régime sioniste contre la section consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie, qui a provoqué la réaction et la légitime défense de la République islamique, ont utilisé tous les outils diplomatiques et même militaires pour dissuader l'Iran de réagir et de punir le régime sioniste dans le cadre de son droit légitime. Mais finalement, l'Iran n'a pas cédé à ses pressions et à ses agissements. L'incapacité de Washington et de ses alliés à soustraire l'Iran à son droit légitime et légal, ainsi que les manœuvres de pouvoir et d'autorité de l'Iran, ont été une grave défaite pour la diplomatie présomptueuse du système capitaliste, et maintenant ils tentent de le cacher au public sous le couvert de sanctions. Après l'opération Vraie Promesse, le régime sioniste et ses alliés occidentaux ont utilisé toutes leurs capacités diplomatiques, militaires et économiques pour créer un consensus mondial contre l'Iran. Mais malgré toute la propagande médiatique, ils ont échoué lors de la réunion du Conseil de sécurité. En tenant compte de ces facteurs, on peut dire que la lame des sanctions occidentales contre l'Iran a officiellement ralenti et que les sanctions présumées ont des fins psychologiques et de propagande. Mais la poursuite de cette approche ne peut pas réduire l'ampleur de la défaite du régime sioniste et de l'Occident lors des opérations Tempête d'Al-Aqsa et Vraie Promesse. Et d'un autre côté, l'Occident a dû tirer la leçon des récentes opérations. L'ère de la patience stratégique de l'Iran est révolue et l'Iran ne laissera aucune menace à l'avenir sans réponse.
Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du débat en ce samedi 20 avril 2024. Nous allons nous pencher sur ce veto américain au Conseil de sécurité de l'ONU qui a empêché l'adhésion de la Palestine en tant qu'un membre à part entière de l'ONU. Beaucoup de réactions, beaucoup de condamnations depuis ce veto. Voilà, pour en parler, j'ai l'honneur de recevoir Maître André Chamy depuis Alsace. Il est sociologue et juriste analyste politique. Bonjour Maître Chamy, heureuse de vous retrouver.
Bonjour à vous tous, à toute l'équipe, à vos téléspectateurs, ainsi qu'à votre invité, Monsieur Cornu.
Oui, immense plaisir d'avoir parmi nous Bernard Cornu, analyste politique, spécialiste au Moyen-Orient, auteur de plusieurs articles sur les questions moyen-orientales. Bonjour, ravi de vous retrouver.
Bonjour à toutes et à tous.
Alors, si vous le permettez, Monsieur Cornu, on va commencer par Maître Chamy avec cette question, ce pourquoi de ce veto américain. Maître Chamy, à quoi vise ce veto, cet énième veto, toujours empêchant les résolutions onusiennes en faveur de la question de la résolution de la question palestinienne en faveur de la paix?
Moi, je ne suis pas certain que le fait de reconnaître la Palestine comme membre de l'ONU changerait quelque chose pour la population palestinienne et encore moins pour l'autorité palestinienne. Il s'agit d'une décision politique. Cette décision politique va dans le même sens comme d'habitude, c'est-à-dire les États-Unis soutiennent l'entité sioniste. Et j'ai envie de dire, tant que cette entité sert les intérêts des États-Unis. Contrairement à d'autres analystes qui disent que le soutien des États-Unis à l'égard d'Israël est un soutien illimité, indéterminé, oui, mais tant que ça sert les intérêts des États-Unis, parce que pour les États-Unis, il n'y a que les États-Unis qui comptent. Mais derrière cela, une fois qu'on a dit ça très vite, il y a une hypocrisie qui apparaît de manière claire, puisque tout le long de cette guerre qui dure depuis presque 7 mois maintenant, les États-Unis disaient qu'ils soutenaient la solution des deux États. Mais avant de parler des deux États, où est le deuxième État? Moi, ma conviction profonde est que la Palestine existe bien avant même l'ONU. Parce que je rappelle au passage que la Palestine a toujours existé, contrairement à ce qu'on imagine, parce que la Palestine est un territoire avec une géographie quasi déterminée, avec toujours des paramétrages qui se faisaient au fur et à mesure des changements politiques dans la région. Mais même à l'époque des Ottomans, il y avait ce qu'on appelait le vilayat d'Aka qui couvrait tout ce territoire-là. Et avec l'arrivée des Anglais, le territoire était toujours la même chose, c'est-à-dire la Cisjordanie, plus ce qu'on appelle le territoire palestinien que l'on connaît actuellement. Ça a toujours été la Palestine. Je compléterai cette observation par l'idée que même les dirigeants sionistes, les premiers dirigeants sionistes, c'est-à-dire Ben Gurion, Peres, Golda Meir, avaient des papiers d'identité délivrés par le gouvernement de la Palestine. Peu de gens le savent et peu de gens le disent, mais en réalité, même Golda Meir, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, enfin j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps, une interview où elle disait « mais moi je suis palestinienne ». Elle disait pas à l'époque « je suis israélienne », elle disait « je suis palestinienne », c'est-à-dire pour elle, elle se considère comme citoyen de ce territoire à partir du moment où elle disposait de ses papiers d'identité, et elle faisait en quelque sorte un coup d'État pour inverser la tendance et renverser le régime qui se trouve à cet endroit-là et pour créer l'État qui est devenu l'entité sioniste. C'est-à-dire la Palestine, pour moi, n'a pas besoin de cette reconnaissance. Il y a des pays qui sont reconnus, qui ne servent à rien. Parfois, ce sont des îles que, je dirais, le trois quarts du monde ignore, mais n'empêche que ce sont considérés comme des États membres de l'ONU. La reconnaissance de l'ONU, c'est une reconnaissance symbolique. Où qu'on aille aujourd'hui, la Palestine et les Palestiniens sont là, sont présents. Pour les effacer, pour effacer la Palestine, pour qu'on ne pas passer la présence palestinienne à travers le monde. Tant qu'il y a un être palestinien sur terre, la Palestine existera parce que c'est la mémoire d'un peuple, c'est la mémoire d'une nation, mais c'est la mémoire aussi d'une histoire ancestrale. Elle n'est pas née hier, elle ne disparaîtra pas demain. Et la guerre aujourd'hui qui tend à transférer toute une population qui est à Gaza, au-delà de son caractère colonial, elle a aussi un caractère qui est celui de l'effacement de la mémoire, qui est celui de l'effacement d'une population, qui est celui de l'effacement d'une trace. C'est la raison pour laquelle, entre autres, les Israéliens ou l'entité sioniste travaillent sur l'effacement de la mémoire palestinienne. On change le nom des villages, on change le nom des villes, on efface le patrimoine culturel, on détruit, on démolit. Pourquoi? Pour qu'on dise finalement non, la Palestine n'existe pas ou n'a jamais existé. C'est ça qu'il faut retenir. Peu importe la décision hypocrite américaine, mais cette décision ne surprend personne et ne surprendra pas les analystes réels de cette zone-là, parce que les Américains, pour l'instant, jouent le temps pour voir est-ce que les choses vont s'inverser, parce qu'aujourd'hui, l'équilibre dans cette zone-là ou dans cette région-là n'est pas en leur faveur. Ils essayent de l'inverser, en tout cas de la renverser, mais ça n'aboutit pas pour l'instant. On a vu ce qui se passe avec l'Iran, on voit ce qui s'est passé avec la Syrie, on voit les échauffourées, pour ne pas dire autre chose, avec le Hezbollah, mais au-delà, il y a le Yémen, le Irak, mais tous ces pays-là sont devenus le symbole de l'identité palestinienne et bien entendu du soutien réel à l'existence de la Palestine dans les mémoires et dans la politique et dans la réalité.
Merci beaucoup, M. Chami. Monsieur Bernard Cournot, alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? À quoi ressemble une Palestine qui n'est pas membre de l'ONU? Qu'est-ce que signifie pour vous ce veto américain, cet énième veto américain?
Oui, je pourrais d'abord rajouter qu'il y avait une banque de Palestine et il y a eu, dès 1911, un journal de Palestine qui a été édité par un Palestinien et largement diffusé, et les archives sont toujours là. Donc c'est important, cette présence symbolique dans le monde entier de la Palestine. Il faut aussi dire que 140 États à peu près ont reconnu cet État de Palestine et que les actions juridiques peuvent être faites auprès de la Cour internationale de justice par l'État de Palestine tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire pas encore membre complet de membre des Nations Unies par cette procédure qui a été définie par la Convention de San Francisco, la Charte de San Francisco, c'est-à-dire la Charte des Nations Unies, c'est-à-dire une reconnaissance d'abord, une acceptation d'abord par le Conseil de sécurité, et dans lequel il y a ce verrou américain, et ensuite par l'Assemblée générale des Nations Unies au niveau de deux tiers des présents, des votants. Donc, des actions en juridique sont importantes, et on le voit suite aux ordonnances, ou deux ordonnances déjà, de la Cour internationale de justice, que le risque d'être désigné comme complice par les États qui soutiennent Israël commence à être sensible, à les faire réfléchir les dirigeants de ces pays, y compris en Amérique, puisque ça a été cité par certains opposants, enfin, à la politique américaine, que le risque de soutien, le fait de livraison encore des armes, les rend possiblement complices du génocide plausible, actuellement conçu comme plausible, risque de génocide, et qui sera sans doute confirmé dans les mois ou les années qui viennent par la Cour internationale de justice, qui prend son temps, évidemment, sur cette cause-là, qui est délicate politiquement et dans laquelle il y a beaucoup de pression. La même chose à la Cour pénale internationale, qui a depuis plus de 7 ans un gros dossier d'accusation envers des dirigeants israéliens. Et on peut espérer qu'il y ait un jour prochain un mandat d'arrêt contre les dirigeants israéliens coupables de crimes de guerre dans toute cette région. Pour revenir à la décision récente sur cette demande d'adhésion aux Nations Unies de la part de la Palestine, de par l'autorité palestinienne, il faut dire que la France, cette fois-ci, s'est prononcée pour. Elle ne s'est ni abstenue, ni exprimé son veto. La représentante ce jour-là de la France, dans la représentation française au Conseil de sécurité, a dit que cette admission, avant le vote, elle a dit que cette admission doit permettre d'engager le processus décisif et irréversible de la solution des deux États. En fait, on s'étonne un peu que la France ne continue pas sans d'amorcer ce processus, comme l'avait d'ailleurs souhaité le président Macron dès le 24 octobre, quand il s'est rendu en Israël. Et dans sa conférence de presse, il a dit qu'il fallait que la sécurité d'Israël ne pouvait résulter que d'un processus décisif de solution politique avec les Palestiniens. Que la France engage ce processus avec l'Europe le plus tôt possible. Et ceci doit aboutir d'ailleurs à un projet de résolution sous chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, parce que c'est le seul moyen d'imposer une solution une fois qu'elle a été décidée par le Conseil. C'est-à-dire qu'il faudra réfléchir à toutes les concessions faites entre les deux parties, le futur État de Palestine et représenté actuellement par l'OLP ou par l'autorité palestinienne, même si elle est faible, mais elle doit aussi pouvoir évoluer et se renforcer, et l'État israélien tel qu'il est aujourd'hui, et donc dans les frontières de la Cisjordanie et de Gaza, et je rajoute, parce que ça n'avait pas été dit par la représentante française du Conseil de sécurité, aussi Jérusalem-Est, comme c'est prévu par la recommandation de 1947.
Merci Bernard Cournoy. Alors on revient avec vous à cette position pour de la France en faveur de l'adhésion de la Palestine en tant qu'un membre à part entière de l'ONU. À vous, Maître Chami. Alors après la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies sur l'adhésion à part entière de la Palestine à l'ONU, le représentant américain a tenté de justifier cette position américaine. Il a avancé à cet égard que l'adhésion palestinienne à l'ONU ne se ferait que par le biais des négociations directes entre la partie palestinienne et Israël. Serait-ce possible? Comment réagissez-vous?
Vous savez, depuis les accords d'Oslo, rien ne s'est produit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, tout était resté flou, aussi bien concernant l'étendue du pouvoir, la représentation de ce pouvoir, la géographie de la Palestine, etc. Au contraire, depuis les accords d'Oslo, le territoire qui était censé être sous l'autorité palestinienne s'est réduit en peau de chagrin. Et aujourd'hui, si l'on regarde sur la carte, il n'en reste pratiquement plus rien. C'est-à-dire que ceux qui parlent d'un État, moi je veux bien, mais sur quel territoire? Aujourd'hui, si vous deviez engager réellement, même sur la géographie qui a été acceptée par Arafat, qui ne représente même pas 27% de la Palestine, même pas 27%, alors qu'en 1948, on était à 48-52. Là, on est à 27%. Déjà, Arafat a pris une telle initiative qui le dépasse, parce qu'en réalité, est-ce qu'il avait le pouvoir de le faire, de céder la moitié de ce qui restait? Ça, c'est la première chose. Mais deuxième chose, aujourd'hui, même les 27%, il n'en restait plus rien, puisque l'occupation continue, mais pas seulement, la colonisation continue. Tous les jours, il y a des colonies. Aujourd'hui, on annonce même des colonisations à Gaza. C'est-à-dire, c'est le retour d'avant 2015. Aujourd'hui, nous sommes face à des gens qui sont hargneux, qui ne veulent pas d'une solution pacifique, qui ne veulent pas de concessions, qui ne veulent de rien. Ils veulent tout simplement occuper l'intégralité du territoire. Il faut se mettre ça en tête pour pouvoir envisager des solutions. Tant qu'on n'a pas compris de manière ferme et définitive quels sont les projets sionistes, ça veut dire qu'on ne cherche que des leurs. La véritable ambition sioniste, ce n'est pas simplement d'occuper la Palestine, mais d'occuper d'autres territoires. Je vous renvoie vers les documents qui datent du début du siècle dernier. Les projets étaient clairs. La volonté était d'étendre, le pouvoir sioniste sur l'ensemble de la zone, parce qu'ils se considèrent comme supérieurs à ces gens-là, ils les considèrent comme des sauvages, et d'ailleurs, ils n'ont pas manqué de le dire à l'époque aux Anglais en disant « nous serions en quelque sorte les sentinelles de l'Occident dans cette région-là ». Et à partir de là, évidemment, si on laissait les sionistes dominer et en tout cas continuer d'étendre leur territoire et continuer d'étendre leurs projets, ils arriveraient jusqu'en Arabie Saoudite. D'ailleurs, en réalité, les accords d'Abraham, c'est quoi? C'est l'extension de l'entité sioniste dans les pays arabes à travers des mains locales. C'est ça la réalité, mais personne n'ose le dire de manière claire. C'est-à-dire aujourd'hui les Émiratis ou les dirigeants du Bahreïn ou même bientôt les Saoudiens sont devenus les mains et les bras de l'entité sioniste. Ils sont là que pour servir ses intérêts. Je rappellerai au passage qu'au début des événements en Palestine, en tout cas à Gaza, là, ces derniers temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Émirats ont été les premiers à avoir voulu porter secours aux Israéliens. C'est un symbole, alors que les autres pays étaient plus timides, hésitaient, etc. Les Émirats Arabes Unis ont été parmi les premiers pays à vouloir apporter son soutien à l'entité sioniste. Ça veut dire quoi? C'est un symbole pour démontrer que l'extension territoriale, même si vous laissez des dirigeants locaux, en réalité ce sont des pantins qui ne sont là que pour servir les intérêts des sionistes afin de leur permettre d'étendre leur territoire. D'ailleurs, la guerre contre le Yémen, c'est quoi? La guerre en Irak, c'est quoi? La guerre en Syrie, c'est quoi? C'est l'extension par des bras locaux de l'entité sioniste. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez par exemple ce qu'on appelait les opposants syriens, c'était quoi? C'était ceux qui parlaient d'un copinage, pour ne pas dire d'une amitié, entre la Syrie et le peuple syrien et l'Israélien. C'est-à-dire encore une fois étendre le territoire et leur donner le pouvoir pour aller plus loin, je dirais, et explorer et exploiter les territoires qui sont au-delà de la frontière qui considèrent comme étant la leur, alors qu'en réalité, si vous prenez la constitution israélienne, il n'y a pas des territoires, il n'y a pas de limites, il n'y a pas de frontières, parce que la frontière se fait au quotidien, et aujourd'hui, maintenant, ils l'étendent à Gaza, comme ils l'ont étendu en Cisjordanie, et ils continueront de l'étendre jusqu'à l'extinction de toute la population qui les entoure. C'est aussi simple que cela. Et tant qu'on n'a pas compris ce projet colonial gravissime, non seulement pour les peuples de la région, mais pour le monde entier, parce que la volonté, c'est ça, c'est dominer le monde, c'est avoir une puissance qui rivalise avec les grandes puissances dans ce monde-là. C'est ça la réalité. Ils ont une telle prétention, d'ailleurs le général de Gaulle l'a dit de manière claire, et aujourd'hui nous y sommes. Là, aujourd'hui, la question qui se pose, est-ce qu'à un moment donné, le monde va mettre des limites à cette situation-là et intervenir courageusement? Moi, j'ai des doutes. C'est la raison pour laquelle nous sommes à la nouvelle plainte contre cette entité et concernant ces crimes, parce que tant qu'on n'est pas du camp de ceux qui dénoncent ce qui se passe en Palestine, mais ailleurs, ça veut dire qu'on risquerait, et c'est ce que je ne cesse de le répéter au cours de mes interventions.
Analyse pertinente, merci beaucoup pour votre analyse, M. Chami. Nous avons encore 2 minutes devant nous, 3 minutes peut-être, Bernard Cournot. Alors s'agissant de la position de la France, il y a un député franco-israélien, Maher Habib, qui est bien connu pour ses discours virulents en faveur de la campagne génocidaire d'Israël dans la bande de Gaza. Alors, il a réagi, il a condamné cette position, ce vote de la France pour l'adhésion de la Palestine, l'a qualifié de trahison.
Oui, mais justement, en devenant, c'est un ami de M. Netanyahou, il est toujours là quand il y a des missions auprès de Netanyahou, de députés français. Et donc, il sera en fait complice, potentiellement complice du crime de génocide plausible qui se déroule à Gaza. Donc, je pense que aussi, lui aussi, un jour, la justice internationale l'atteindra. Et la justice française, d'ailleurs, l'avait déjà atteint pour des manœuvres assez indélicates et assez illégales pendant sa campagne électorale.
Merci beaucoup. Alors, pour conclure, vous voulez ajouter quelque chose, quelques mots encore ?
Oui. Oui, effectivement, le rapport de force, l'intérêt des États-Unis dans le contrôle de cette région, c'est un peu lié évidemment au contrôle des ressources, du pétrole et du gaz, et ceci depuis longtemps, depuis plus de 100 ans, depuis l'émergence du moteur diesel. Donc, en fait, pour avoir une chance défendre Israël soit moins un intérêt pour les États-Unis, il faut effectivement participer à la diminution de la demande de pétrole et de gaz. Donc c'est pour ça que je lis, c'est aussi lié à l'intérêt de l'humanité, à la défense du climat, enfin la protection contre le changement climatique. C'est aussi la réduction des consommations d'énergie, des abus de consommation d'énergie qui permettra d'affaiblir le lien d'intérêt entre les États-Unis et la colonisation de la Palestine, de ce qu'il en reste, par les colons israéliens, qui sont des illuminés, qui, j'espère aussi, auront à répondre de leurs crimes devant la justice internationale.
Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes Bernard Cournot, expert en énergie aussi. Merci à vous, M. Chami, d'avoir participé à ce débat. Amis téléspectateurs, amis auditeurs, merci de votre fidélité. Au revoir à tous. À la prochaine.
Merci à vous.
L'établissement militaire israélien ne cesse de déclarer dans les médias israéliens que si ce sera une erreur stratégique de rentrer à Rafah, pas seulement parce qu'il y aura justement encore des massacres, mais que cela nuira et que cela se nuira encore plus à l'image entre guillemets qu'avait tenté pendant des années l'entité sioniste de promouvoir, qu'elle était justement un État démocratique dans une région qui est barbare, cela nuira justement encore plus à l'image de l'entité sioniste. Donc c'est des actes de désespoir à l'acte de désespoir. Et le dernier acte de désespoir que tout le monde a déclaré, c'est l'attaque israélienne contre le consulat iranien à Damas. Donc ça a été l'erreur, la grande stupidité stratégique de la part de l'entité sioniste. Et là, ça fait une semaine que l'entité sioniste est complètement paralysée, en sens qu'elle s'est mobilisée à fond, qu'il ne cesse de déclarer et de tenter de deviner quelle sera la riposte iranienne. Bon, là, justement, au moment où je vous parle, selon IRNA, une agence iranienne, il y a un navire MC Aris qui a été en fait pris par les Iraniens dans les eaux iraniennes. Donc, je ne sais pas si telle est justement la riposte iranienne, mais ça vient juste de me sauter devant moi dans les yeux en tant qu'urgent. Voilà.
Merci beaucoup, Madame Obala. Monsieur Cournon, alors les massacres et les crimes du régime d'occupation d'Israël à Gaza, est-ce que d'après vous ne reflètent pas l'échec stratégique d'Israël, comme vient d'en parler Madame Obala, alors que 6 mois de guerre se sont écoulés sans qu'Israël puisse atteindre ses objectifs déclarés?
Disons, il est difficile de dire qu'il y a une défaite ou une victoire. Je pense que le but des Palestiniens est d'avoir un État libre, autonome, souverain, avec une continuité territoriale, avec au minimum la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, plus un territoire de continuité à négocier, et que ceci sera effectivement une conséquence positive du sacrifice immense qu'ont concédé les Palestiniens de Gaza et ceux de Cisjordanie pour que cette question de Palestine soit remise dans le devant de la scène et que les dirigeants qui ont le pouvoir dans le monde, c'est-à-dire en fait le Conseil de sécurité qui seul peut décréter des mesures de force pour appliquer le droit international qui est violé depuis 56 ans par l'État israélien en occupant ces territoires après la guerre de 67. Donc ceci sera peut-être une victoire pour les Palestiniens et comme l'a dit d'ailleurs le président Macron, c'est cette situation positive après un État palestinien côte à côte qui garantira la sécurité de l'État d'Israël. Donc ce sera aussi dans l'intérêt d'Israël après ces décennies d'errements de politique, d'occupation militaire, de colonisation, d'assassinat civil qui a fini par dégrader l'image d'Israël, donc dégrader tous ses soutiens dans le monde. Maintenant, à peu près 140 nations dans le monde à l'Assemblée générale des Nations Unies sont prêtes à voter positivement pour la création de l'État palestinien et qu'il soit reconnu comme un membre plein comme membre des Nations Unies. Ceci nécessite un vote qui sera proposé, je pense, le 18 février, dans quelques jours, au Conseil de sécurité. Et j'espère que les États-Unis ne feront pas un veto, car sinon leur image aussi sera complètement dégradée. Et il est probable aussi que des actions en justice continueront à être exercées contre les États-Unis s'ils continuent à s'opposer à la création de l'État de Palestine comme membre plein des Nations Unies et en pleine application du droit international tel qu'il a été voté depuis des décennies.
Merci beaucoup. Dernière question, peut-être avec vous, Madame Obala. Alors, cet acte d'assassinat visait certainement à ébranler la détermination de la résistance palestinienne, ce qui est incroyable et d'ailleurs admirable auprès de la population palestinienne dans la bande de Gaza, c'est leur soutien à la résistance palestinienne malgré tant de martyrs qui ont donné depuis le 7 octobre.
Je n'ai pas compris votre question. Vous voulez savoir quoi?
Bon, s'agissant du soutien continu de la population martyre de la bande de Gaza. Okay.
Oui, alors, mais avant, justement, ce qu'il faut bien préciser, c'est que ce peuple palestinien a enduré, comme l'a bien appelé votre invité, plus de 56 ans de massacres, d'assassinats, etc. Et ce qui est extraordinaire, c'est que À chaque fois qu'on assassine plus des chefs ou des cadres de la résistance, que ce soit palestinienne, que ce soit au Liban, comme ça a été le cas, le secrétaire général du Hezbollah dans les années 90, eh ben cela ne fait que renforcer la détermination et la volonté des commandants de cette axe de résistance. Il y a toujours un remplaçant, c'est ça qui est extraordinaire. Comme si vous vous rappelez, quand on a assassiné le commandant en chef des gardes de la révolution islamique des brigades Al-Quds, la branche extérieure des gardes de la révolution islamique, Qassem Soleimani, et ben aujourd'hui, j'étais en train de lire des articles, on affirmait que justement le martyr, la mort plutôt, l'assassinat de Qassem Soleimani, c'était avéré beaucoup plus dangereuse que quand il était en vie. Donc, à chaque fois qu'on essaie, c'est dans l'histoire, c'est le processus historique, c'est une règle historique, plus on assassine un peuple qui a le droit à une terre ou qui est occupée, et ben plus on renforce sa détermination et sa volonté. Certes, le prix est fort élevé, mais cela n'empêche pas qu'en fin de compte, l'histoire, telle est la règle de l'histoire, et ben ce peuple aura droit à récupérer sa terre.
Merci beaucoup, Madame Abala. Je rappelle que vous êtes analyste politique et experte en géopolitique. Monsieur Cournot, vous voulez ajouter peut-être quelque chose ?
Oui, tout à fait. Nous sommes en face d'une résistance à une occupation. Et en France, pendant l'occupation nazie de la France, il y a eu une résistance. Et le poète disait, celui qui croit en Dieu et celui qui n'y croyait pas étaient tous les deux actifs dans la résistance. C'est-à-dire tout. Et le chef français de la résistance a été torturé à la fin par les Allemands. Il est mort. Mais 70 ans après, on honore encore son souvenir.
Merci, Monsieur Cournot. Bernard Cournot, analyste politique et spécialiste au Moyen-Orient. Merci à vous, amis téléspectateurs et amis auditeurs. Au revoir. À la prochaine.
Afrique économique.
Des télécommunications discute avec MTN et Telecel de la vente de MTN Guinée. MTN a signé avec Telecel un accord qui comprend la cession de ses parts dans MTN Guinée. Le groupe sud-africain veut réorganiser ses actifs en Afrique pour se concentrer sur ses marchés à fort potentiel. Quant à Telecel, il poursuit son expansion sur le continent. Rose Paula Prisemou, ministre guinéenne des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, a reçu une délégation de Telecel Group accompagnée de Didier Zouzi, Saladia Kanda, directeur général de MTN Guinée. Le mercredi 17 avril, les échanges ont notamment porté sur l'acquisition de la filiale guinéenne de MTN Group par Telecel. Plus spécifiquement, il a été question des récents développements concernant MTN, la protection de l'État guinéen et de ses citoyens, la création et le maintien d'emplois, les futurs investissements, la mise en place d'un cadre équilibré propice à la croissance économique. Atos accompagne l'Institut Pasteur de Dakar dans la diversification de ses activités via un système informatique intégré. Atos annonce avoir été choisi par l'Institut Pasteur de Dakar dans le cadre d'un projet de grande ampleur visant à encourager la diversification des activités industrielles de l'Institut. Il consiste en la mise en œuvre d'un système de gestion intégrée, des processus et de gestion de maintenance assistée par ordinateur. Ce contrat s'inscrit dans la stratégie de développement de l'institution visant à diversifier Ses activités industrielles, notamment dans la fabrication de produits pharmaceutiques innovants, tels que des vaccins et des tests de diagnostic rapide, ainsi que leur distribution à l'échelle mondiale. La mise en place du logiciel de gestion intégrée SAP ainsi que d'une production et d'une maintenance assistée par ordinateur joueront un rôle clé dans la réalisation des objectifs fixés par l'Institut Pasteur de Dakar. Accra Impact Capital lève 100 millions de dollars pour financer des infrastructures adaptées au changement climatique en Afrique. Le fonds qui vise notamment à financer des projets dans des domaines tels que les énergies renouvelables, la santé, l'alimentation et l'eau prévoit de fournir une partie du financement non garanti pour les projets soutenus par les agences de crédit à l'exportation. Deux anciens banquiers du groupe français BNP Paribas, Hussein Sefian et Faisal Khan, ont lancé un nouveau fonds de dette privée Impact de 100 millions de dollars dédié au financement des infrastructures adaptées au changement climatique en Afrique, a rapporté Reuters ce mercredi 17 avril 2024, citant l'un des cofondateurs de ce véhicule d'investissement baptisé Accra Impact Impact. Ce fonds cherche à contribuer et à combler un déficit de financement des infrastructures estimé à 100 milliards de dollars par an sur le continent en fournissant une partie du financement non garanti pour les projets soutenus par les agences de crédit à l'exportation. La plateforme industrielle d'Adetikopé a attiré ces derniers mois une nouvelle vague d'investisseurs, signe de son dynamisme croissant dans le secteur industriel du Togo, bien que les attentes demeurent élevées au Togo. La plateforme industrielle d'Adetikopé attire de nouveaux investisseurs, ils sont près d'une dizaine à rejoindre la zone industrielle intégrée récemment. Indiqué mercredi 17 avril 2024, le département de la communication de l'institution co-détenue par l'État et RISE IIP. Parmi les nouveaux venus, Brillante Industrie Togo se lancera dans la fabrication de chassures et General DOP Park Industries prévoit la production de sacs en plastique. New Asha Company Limited introduira la fabrication de vaisselle en plastique, notamment de gobelets et d'assiettes, tandis que Wanderlar International Limited se spécialisera dans la production de boissons. Au Zimbabwe, Skypower et ZTDC signent des accords de partenariat public-privé pour le plus grand projet solaire du pays. Très largement dépendant de l'hydroélectricité et donc vulnérable par rapport aux baisses des niveaux d'eau, le Zimbabwe cherche à miser sur d'autres sources renouvelables pour sécuriser son approvisionnement électrique. Dans le cadre du World Future Energy Summit, qui se tenait du 16 au 18 avril, le producteur indépendant d'électricité Skypower et la Zimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ont signé des accords d'achat d'électricité. De foyers au Zimbabwe.
Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.